Bonsoir Thomas Legrand.
Bonjour Olivier, bonjour Alain.
Bonsoir Alain Duhamel. Le salaire de 36,5 millions d'euros de Carlos Tavares a été validé cet après-midi par les actionnaires de Stellantis à 70%. Ils étaient réunis en assemblée à Amsterdam. Alors à chaque fois, à chaque année, en fait, il y a une polémique autour du salaire de Tavares. Ben, on va écouter la réponse justement du directeur général du groupe automobile. Voilà ce qu'il dit.
Comme pour un joueur de foot et un pilote de Formule 1, c'est une dimension contractuelle, il y a un contrat. Ensuite, 90% de mon salaire, il est fait par les résultats de l'entreprise. 90%. Donc, ça prouve que les résultats de l'entreprise sont apparemment pas trop mauvais. D'ailleurs, sur ces critères-là, si vous aviez la performance de mes concurrents, le salaire aurait été beaucoup plus faible. Donc, c'est ça ce que vous répondez. Et puis, au-delà de la dimension contractuelle, il y a la dimension sociétale. Si vous estimez que c'est pas acceptable, faites une loi et modifiez la loi. Et je la respecterai.
Faites une loi, modifiez la loi. On va en parler de la loi. Mais tout d'abord, Alain, première question. Êtes-vous choqué par la rémunération de Carlos Tavares ?
Oui, je trouve ça choquant. Je trouve ça, en plus, provocateur. Mais je trouve ça, je sais aussi que c'est universel. Bon, c'est choquant parce que 36 millions et demi... C'est énorme, en plus c'est une augmentation de moitié par rapport à l'année dernière. Alors je sais qu'il y a une prime de 10 millions qui correspond à la fusion entre Fiat et Peugeot Citroën, etc. Que l'essentiel est en action, qu'une partie est pour sa retraite.
Plus de 90% de ce montant dépend des résultats de l'entreprise.
Oui, non, mais c'est vrai ça. Bon, mais reste que c'est spectaculaire, surtout si on a en tête que les salariés de son groupe, eux, ont été augmentés l'année dernière de 3,7%. Lui, c'est quand même 50%. Alors, il y a des explications, mais enfin, je trouve que c'est choquant. Ensuite, je trouve que c'est provocateur dans la mesure où la plupart des dirigeants du CAC 40 sont des gens discrets. Les deux qui le précèdent, parce qu'il y en a deux qui gagnent plus d'argent que lui, mais les deux qui le précèdent, on n'en parle jamais. Et ils ne veulent pas qu'on en parle. Enfin, ils ne veulent pas, ils ne se montrent pas, ils ne s'exhibent pas. Lui, non seulement il assume, mais il provoque, il le sait très bien. Et je trouve d'abord que ce n'est pas très malin. En plus que ça a des effets secondaires qui sont dangereux dans un pays aussi égalitariste que la France. On est le pays le plus égalitariste du monde et on a un grand symbole qui
est un symbole de réussite aussi.
Et puis alors, c'est pas moi qui faut dire. Bien sûr que je suis pour la méritocratie, la réussite.
Il a vraiment relancé Stellantis.
Il est exceptionnel. Bon, c'est un dirigeant exceptionnel, c'est vrai.
Partout où il est passé, ça a fonctionné.
Mais ce que je relève aussi, c'est que cette inégalité foncière spectaculaire et qui est exagérée, elle est universelle. Parce que c'est vrai dans tous les pays capitalistes, comme on dit, c'est vrai dans tous les pays en voie de développement, où les inégalités sont même encore plus grandes. Mais c'est vrai aussi en Chine, où théoriquement c'est un pays communiste.
Il y a beaucoup de milliardaires
chinois. Et où il y a des milliardaires. Et la différence entre les milliardaires et le paysan chinois, c'est aussi important. Et en Russie, les oligarques. Donc c'est universel. D'accord. Et ça, je trouve que c'est vraiment une question.
Alors Thomas Legrand, même question. Êtes-vous choqué ?
Oui, je suis choqué pour exactement les mêmes raisons qu'Alain. C'est universel. Alors ça, il y a beaucoup de choses qui sont françaises et qui sont spécifiques. Et on est très content que ça soit spécifique. Je vois pas pourquoi on n'aurait pas quelque chose comme ça. L'égalité d'ailleurs, l'égalitarisme dont vous parlez, c'est une spécificité française.
Elle n'est pas toujours réelle.
Elle n'est pas toujours réelle.
L'égalité n'est pas réelle, mais l'égalitarisme est réel.
Oui, c'est ça.
L'aspiration à l'égalité est quelque chose de très français. Et je trouve ça plutôt bien quand on arrive à l'allier à la compétitivité, et on y arrive généralement. Et là, je trouve ça effectivement assez indécent. C'est indécent parce que ce sont des chiffres, on le dit à chaque fois, c'est un petit peu le même débat, ce sont des chiffres qui sont astronomiques, qui ne veulent rien dire pour personne, que personne ne peut dépenser. C'est des salaires, même mensuels, que personne ne peut dépenser en vivant mieux que mieux. On ne voit pas quel est l'intérêt. Ce que je trouve très choquant, moi, c'est son explication. C'est-à-dire, où est-ce indécent ?
Bon, vous trouvez
ça...
Mais c'est
légal. Vous trouvez ça indécent, vous avez qu'à changer la loi. C'est marrant, tous ces patrons tous ces patrons généralement très libéraux qui n'aiment pas les lois, qui n'aiment pas les normes, et qui disent laissez-nous être responsables, on n'a pas besoin de normes pour que les équilibres se fassent.
En même temps, c'est une entreprise privée.
Mais, bien sûr.
Ils ne veulent l'argent à personne.
Ils ne veulent l'argent à personne. Bon, ils pourraient le distribuer différemment, ils pourraient en faire, je ne sais pas, ils pourraient avoir une fondation.
Bon, enfin, les actionnaires valides.
Les actionnaires valides, mais évidemment, les actionnaires touchent aussi largement. Mmh. Le jour où les salariés seront bien mieux représentés dans les entreprises, comme c'est demandé par.
Il y a des salariés qui sont actionnaires. Hein,
oui, bien sûr, mais il y a. Dans le conseil d'administration.
Oui, mais la prime de cette année, c'est pas terrible. Hein.
Oui, non. Et les conseils d'administration de ces entreprises-là, les salariés ont un poids qui n'est pas du tout assez important. Donc, ces patrons très libéraux qui vont dire faites une loi. Bah, moi, je dirais chiche.
Justement, parce que la gauche, tout de suite, à chaque fois d'ailleurs, propose et annonce vouloir légiférer. Bon, elle n'est pas au pouvoir, donc ça risque de pas passer. Mais Boris Lavaux, par exemple, a annoncé que son groupe, le groupe socialiste, allait déposer à nouveau une proposition de loi qui date de 2020 et qui vise à limiter les écarts de rémunération au sein des entreprises. Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est faisable?
Dans l'idéal, bon, aujourd'hui, entre les patrons du CAC 40, dont je répète, la plupart sont discrets et dont beaucoup sont d'ailleurs très bons, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de chefs de grandes entreprises françaises qui sont très sollicités sur le marché des dirigeants internationaux. Mais ils sont assez intelligents pour être discrets, mais la différence quand même moyenne entre un patron des CAC 40 et ses salariés, c'est de 1 à 89. Effectivement, il y a peut-être un moyen de limiter les choses.
Mais, le CAC 40, c'est assez particulier.
Oui,
la plupart
mais
des patrons, c'est des patrons de PME.
Non, mais c'est les grandes entreprises.
Ça ne les concerne pas, bien sûr.
Non, mais là, on parle du CAC 40, je l'ai bien dit. Mais c'est les grandes entreprises qui sont un des points forts de l'économie française. Il ne faut pas oublier qu'on a les plus grandes entreprises d'Europe. Ce n'est pas l'Allemagne, ce n'est pas la Grande-Bretagne, ce n'est pas l'Italie, ce n'est pas l'Espagne, c'est nous.
Qui, en général, d'ailleurs, font leurs bénéfices ailleurs qu'en France.
Exactement. Et oui, font leurs bénéfices et paient moins d'impôts dans les pays dans lesquels ils travaillent. Et où ils font leurs bénéfices.
Oui,
oui. C'est la loi, pour le coup. Elle vient d'être changée, quand même, puisqu'on est enfin, et c'était des initiatives françaises au départ, parvenu à introduire une taxation minimale de 15%.
De 15%, ce qui est pas énorme du tout, mais qui était un début.
Mais ça n'existait pas.
Oui, oui.
Et c'est justement fait pour éviter les évasions fiscales, etc. Bon, mais évidemment, ce n'est pas une situation qui est théoriquement satisfaisante. Maintenant, quel est le moyen? De toute manière, on ne peut modifier les choses de façon intelligente, enfin, à mon avis, de façon intelligente, que si ça se fait partout en Europe.
C'est ce que dit Bruno Le Maire.
Il lui arrive d'avoir des idées très intelligentes.
Et comme les autres ne vont pas vouloir,
surtout quand c'est les mêmes que les miennes. Donc,
les autres ne voudront pas, les autres Européens.
Et on ne sait pas. On ne sait pas, mais...
Oui,
on peut essayer.
En tout cas, les partis qui le proposent pourraient dire voter pour, dans toute l'Europe pour tous les partis qui le proposent, et comme ça, tous les Européens le voudraient. Mais, moi, je reviens sur
quand même, plafonner, alors, ou pas?
Je pense qu'il faut plafonner, oui.
Il y a un salaire minimum, est-ce qu'il faut un salaire maximum?
Évidemment, je préférerais qu'ils se plafonnent eux-mêmes. C'est-à-dire que lui, pour être décent, il lui faut une loi. C'est ça qui m'exaspère. Pour être décent, il faut une loi.
Ouais.
Il peut pas être décent sans loi.
On ne sait pas ce qu'il fait de son argent. Peut-être qu'il va avec cet argent créer une fondation.
Bien sûr.
Et que ça sera à la limite plus utile que de le taxer davantage, parce qu'on ne sait pas ensuite où ça part. S'il crée une fondation, par exemple, contre la mortalité routière, on en parlait à l'instant, elle est plutôt en augmentation.
Que les excès d'argent soient gérés par les assemblées.
Par les assemblées. C'est mieux géré quand c'est l'État.
Non, c'est pas mieux géré quand c'est l'État, mais il y a des fortunes avec des fondations et des gens qui ont fondé des choses très bien, mais ce monsieur payait un peu plus d'impôts, ça ferait plus d'argent dans les caisses. C'est quand même une période en ce moment où se demande si on va réduire le temps d'indemnisation des chômeurs pour renflouer les caisses. Et là, on est en train de parler.
Est-ce qu'on n'a pas plus besoin de Tavares, pardon, que de. Excusez-moi,
que de fonctionnaires. Mais est-ce que Tavares a besoin de 36 millions?
Thomas et Alain, vous dites que c'est choquant, effectivement, tout le monde peut trouver ça choquant.
Est-ce que Tavares a besoin de 36 millions pour être aussi bon que Tavares?
D'accord, mais aucun de vous deux dit c'est quand même déjà une réussite formidable.
Mais
c'est quelqu'un qui, partout où il passe, il a sauvé Peugeot. Il a sauvé des salariés.
Non, mais Olivier.
Vous parliez des chômeurs.
Olivier,
qu'il y aurait aujourd'hui plus
Olivier,
de chômeurs.
Olivier, vous êtes d'une mauvaise foi incroyable. J'ai expliqué au contraire que c'était un dirigeant extraordinaire et que si.
Plutôt la méritocratie la française, il a fait centrale.
Il est extraordinaire, c'est un fait, et il a réussi des performances formidables. C'était des groupes. Fiat ou Peugeot Citroën qui allaient mal, et maintenant sont des groupes non seulement florissants, mais qui ont des résultats extraordinaires par rapport à leurs concurrents. Donc il est absolument exceptionnel. Ça ne veut pas dire qu'il est obligé d'être ostentatoire ou provocateur. C'est vrai que les gens hors normes.
Alain trouve qu'il devrait gagner autant d'argent, mais pas trop le dire. Je trouve qu'on pourrait lui en prendre un petit peu.
Non, ça n'est pas ça.
Il devrait vivre caché.
Je trouve que quand on gagne beaucoup d'argent, etc., ce n'est pas la peine de provoquer en plus. Et je trouve que quand on arrive...
Il le mérite quand même.
Mais oui.
Alors le mérite, attendez, le mérite de l'argent.
Mais moi, je ne suis pas contre...
C'est ça, je voulais vous faire dire.
Bien sûr qu'il le mérite.
Il mérite d'être mieux payé que les autres.
Mais il est plus efficace que les autres, il est mieux payé que les autres, mais il n'est pas obligé en plus de rouler les épaules en public.
Le patron de General Motors doit être mieux payé, il va vous dire ça.
Et il pourrait, en étant un aussi bon, non seulement gestionnaire, mais reconstructeur qu'il a été, est un peu plus ambitieux en ce qui concerne ses salariés quand même, c'est pas exclu. Et alors moi je ne suis pas pour mettre des plafonds, mais en revanche essayer de le faire au plan européen, ça je trouve ça intelligent, oui.
Et pas impossible.
Oui, mais lui, il va vous répondre, lui ou un autre, ils vont dire oui, mais il y a un marché bons entrepreneurs, des bons chefs d'entreprise, par exemple son concurrent General Motors, je ne connais pas le montant, mais il doit être mieux payé.
Mais avec cet argument-là, bon, ils refusent le plafond, mais ils ont aussi longtemps refusé les planchers. Il y a un marché mondial aussi des employés. Et pourquoi on met le SMIC? Parce que
il y a des pays qui l'ont pas.
Et donc on ne fait rien.
Puisqu'on parle du SMIC, jusqu'à présent, il y avait en Europe les pays dans lesquels il y en avait un SMIC et les pays dans lesquels il n'y en avait pas. Et pendant des décennies,
j'ai entendu dire,
on n'y arrivera pas. On vient d'y arriver.
Alors, ce ne sont pas les mêmes SMIC,
ce qui est normal, puisque ce n'est pas le même développement, etc.
Mais ça se resserre.
Mais c'est un départ. C'est toujours la même chose, et c'est pour ça que sur le plan européen, on pourrait très bien imaginer qu'il y ait un plafond réaliste, c'est-à-dire pas incompatible avec ce qui se passe ailleurs. Mais moi, je voudrais insister quand même parce que il y a aussi des hypocrisies quand même dans ça. C'est vrai que on a un système qui fabrique ces inégalités. Je répète, pour les patrons du CAC 40, pas pour les patrons en général, les patrons du CAC 40 et les salariés de 1 à 89, c'est beaucoup. Bon, mais c'est comme ça et c'est souvent plus encore dans les autres pays. Et deux, ce qui me frappe, c'est que ça ne dépend pas du régime politique. Si c'est un régime comme les Chinois qui se prétend communiste, c'est non seulement la même chose, mais pire. Et si c'est un régime comme la Russie qui sort du communisme, mais qui en sort dans un état d'état
militaire... Parce que vous nous dites que c'est pire... C'est pire dans les dictatures. Donc nous, si on veut être une vraie démocratie un peu sociale, il faut resserrer.
Aux États-Unis, il n'y a pas vraiment ces débats. Aux États-Unis, on se félicite quand un grand patron gagne beaucoup d'argent.
Alors là, c'est la spécificité française et aussi la forme d'égalitarisme typiquement français qui est que on n'aime pas les riches qui réussissent. Voilà. En Italie, on a admiré formidablement Berlusconi, c'était une bonne idée. Il partait de peu et regardez où il est arrivé. En Allemagne, on respecte monsieur le directeur, monsieur le super directeur, monsieur le président, monsieur le super président. On trouve que
et en
c'est
Allemagne,
parfait.
En Allemagne, les salariés ont plus de pouvoir.
Ils doivent avoir à chaque fois.
En France, on fustige Bernard Arnault.
Aux États-Unis,
en Allemagne, l'écart est moins élevé entre les grands patrons et
Mais on n'aime pas la Russie, vous savez.
Parce qu'il y a moins de grands patrons.
Bernard Arnault passe son temps
à dire Bernard Arnault, il ne paye pas assez d'impôts, Bernard Arnault. Et alors qu'on devrait se dire, c'est génial, on a quand même.
L'un des plus grands patrons français. En tout cas, personnellement, quitte à avoir l'homme le plus riche du monde ou un des trois plus riches, j'aime autant qu'il soit français qu'allemand chinois ou américain d'ailleurs.
Mais les Français, ils trouvent toujours que c'est trop.
Ça fait partie.
Et en revanche, on trouve normal que Mbappé ou Neymar ou Messi ou d'autres gagnent exactement les mêmes sommes d'argent en tapant dans un ballon.
Encore plus, mais pendant moins longtemps.
Je trouve que
tout ça devrait être un peu plus taxé, c'est tout.
On n'a jamais de débat sur le plafonnement des salaires des joueurs de foot.
On peut, franchement, c'est pas vraiment passionnant, mais
Tavares le mérite peut-être plus
Mbappé.
que Ronaldo, qui est celui qui est le mieux payé.
Alors Alain et Olivier, si on commence à faire un débat sur le mérite et le salaire, est-ce que la dame qui vient ce soir à 3h du matin jusqu'à 5h du matin balayer ici,
est-ce que le médecin qui va vous soigner,
ne
vous
mérite
sauver
pas plus de salaire que vous qui restez assis à présenter tout ça?
On est d'accord.
Celle qui fait 3 heures de transport pour venir ici et qui a 3 emplois dans la journée. Donc le mérite et le salaire, ça n'a aucun rapport.
Ça n'a aucun rapport, le mérite et le salaire. Là, vous jouez sur les mots.
Mais non,
vous jouez sur les mots.
Je ne joue pas sur les mots.
Je vais dire pourquoi. Je vais dire pourquoi.
Définissez le mérite.
Vous jouez sur les mots parce que le mérite dont je parle, c'est le mérite qui est enregistré dans l'efficacité dans son travail. Et c'est pas la comparaison.
Quelqu'un va aller voir si c'est bien nettoyé.
Mais c'est pas la comparaison entre l'ingénieur en chef de ceci et celle qui s'occupe de remettre les choses en état. Je veux dire, c'est
elle
chacun.
Elle pourra toujours faire mieux, son travail ne sera jamais mieux payé.
Ça n'est pas la peine de parler en même temps. Le mérite, c'est à l'intérieur de chaque catégorie. Et dans chaque catégorie, il y a des gens qui font mieux leur travail que les autres et qui méritent que ce soit reconnu. Le mérite, c'est ça. Et le mérite, c'est aussi ce qui permet l'ascension sociale, qui marche ou qui ne marche pas selon les cas, mais c'est le mérite qui la permet. Merci d'avoir terminé ma phrase sans m'avoir interrompu. Ça faisait un bon moment que ça ne s'était pas passé.
Et Thomas, vous voulez rajouter quoi ?
Ah ben non, parce que là, si j'empiète sur le temps d'Alain...
Bon, on va s'arrêter là. On en parlera sans doute avec Gabriel Attal, qui sera face à BFM jeudi soir. Notez ce rendez-vous à 20h50. Le Premier ministre qui sera face à la rédaction de BFM TV s'est présenté par Maxime Switek. Il sera sans doute question, entre autres, du salaire. Je sais pas comment le qualifier. Mirobolant de Carlos.
Mirobolant, c'est bien.
Allez, on va rester sur cet adjectif. Merci à tous les deux.